Franchement, tout est enregistré, je vous signale, pour la postérité. Les enregistrements donc sont pour François Hiel, qui est professeur agrégé au département de lettres et de communication. Est-ce que j'ai l'intitulé exact ?
Oui.
De l'université de Sherbrooke, et qui est chercheur donc au laboratoire Culture populaire connaissance critique. Alors François, c'est à toi pour une quarantaine de minutes et après nous débattrons.
D'accord, je te remercie Eric. Et merci également de nous avoir reçus aujourd'hui, de nous avoir invités au mois de juillet dernier. Et bon, justement, je voulais revenir là-dessus, mais avant, ce que je vais faire, c'est que j'ai écrit un texte, donc je vais lire le texte, mais j'ai énormément d'extraits qui sont soit en français, soit en anglais, mais qui doivent être lus, ce qui fait que je vous ai distribué ceci. Il s'agit d'une feuille d'extraits définissant ce qu'est le concept d'articulation, mais dans la contemporanéité, c'est-à-dire récemment. Et ensuite, je vais vous présenter d'autres extraits qui font partie de l'exercice que j'ai fait aujourd'hui. Puis vous avez une bibliographie qui peut vous être utile s'il y a certaines choses qui vous intéressent. En tout cas, c'est là que vous allez pouvoir retrouver les pistes pour retracer certains des textes dont je vais vous parler tantôt. Alors, si vous permettez, la théorie de l'articulation, de quoi s'agit-il? Introduction. Depuis 5 ans, on observe la multiplication des traductions françaises de textes, articles et chapitres d'auteurs associés aux British et aux Australian Cultural Studies. Raymond Williams, Stuart Hall, Angela McRoby, David Morley, Paul Gilroy, etc. L'attitude adoptée par la nouvelle génération de chercheurs en communication en France et en Belgique ressemble à une célébration. Maigret, Massé, Servulle et d'autres louangent les capacités théoriques des Cultural Studies, questionnent le désintérêt des intellectuels français à l'égard de penseurs comme Stuart Hall, qui a pourtant marqué la scène politique universitaire britannique et internationale depuis 40 ans. Ils érigent l'histoire du CCCS de Birmingham comme s'il s'agissait d'un Eldorado retrouvé. Ils orchestrent le tout, remarquez la poésie, en un concert dont les décibels agacent quelques-uns des disciplines de Bourdieu. Par exemple, l'entretien qu'accorde Edgar Morin et Éric Massé, au cours duquel on a l'impression d'assister à un règlement de compte un peu tardif, oui, 40 ans plus tard, et en même temps, on assiste à une affirmation d'Edgar Morin disant « Moi, en 63, je faisais des cultural studies ». Ce qui n'est pas tout à fait faux s'il avait dit « études culturelles » ou s'il avait dit « je faisais quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce qui se faisait à l'époque ». Si vous retournez voir les premiers numéros de la revue Communication, vous allez revoir tout le maillage théorique qui peut être associé au British Cultural Studies. Alors, la chose m'intéressait, j'ai ainsi publié un article sur le débarquement des Cultural Studies l'an dernier dans la revue Cahiers de recherche sociologique. Lorsqu'Éric me demanda en juillet dernier de présenter une communication dans le cadre de ce séminaire, je parcourais alors le livre, le voici, Communication Has Perspectives on Theory, dirigé par Shepherd, St. John et Triffiths. L'originalité de ce livre, qui a été publié en 2006, consiste en 27 courts chapitres, tous consacrés à un concept précis, identité sociale, dissémination, rituel, articulation. Le chapitre sur l'articulation, écrit par Jennifer Darrell Slack, m'a fait réaliser que les textes francophones récents qui servent d'introduction aux idées des Cultural Studies, réfèrent très peu à ce concept, celui d'articulation, qui, pour plusieurs observateurs, constituerait pourtant un des apports principaux de Stuart Hall au renouvellement théorique en matière d'idéologie. Juillet est bien loin, et l'assurance que j'avais de vous présenter un véritable travail d'analyse comparative des utilisations du concept d'articulation a disparu. Toutefois, j'ai amorcé une recherche bibliographique, j'ai trouvé des choses intéressantes, j'ai remonté des pistes, bref, j'en suis arrivé à croire qu'il y avait là un sujet qui méritait l'attention, et j'en profite pour te remercier de cette proposition-là qui m'a fait découvrir quelque chose qui pourra m'occuper les dimanches et peut-être en arriver à quelque chose de consistant. Ce que je vous présente aujourd'hui constitue un exercice de généalogie, et je le souligne, c'est un exercice, pas d'histoire, c'est un exercice premièrement, et de généalogie. Il est bien clair qu'il y a tout un arbitraire ici, c'est-à-dire quelles sont les pistes que j'ai préférées à d'autres, quels étaient les moyens que j'avais, est-ce que j'avais nécessairement les livres en ma possession. Retrouver certains textes, il y en a qu'il a fallu que je fasse venir de New York et d'autres de Harvard parce que nos universités au Québec ne les ont pas. Alors, juste pour préparer ceci, il y avait déjà beaucoup de démarches à entreprendre. Et je sais qu'il y a tout un pan que je pourrais entreprendre. Ça m'a permis de voir que je pourrais m'occuper longuement et faire quelque chose d'intéressant. En tout cas, si tout fonctionne bien, évidemment. Je suis ainsi passé du présent au passé, plus précisément du côté de quelques textes des années 70, publiés dans des domaines qui ne me sont pas familiers, comme les études africaines ou les études internationales sur le sous-développement, comme on disait à l'époque. Parce que « underdevelopment », « sous-développement », comme expression, ça a disparu à partir du milieu des années 90, si je me souviens bien. Cela dit, je vais commencer par vous offrir quelques définitions et usages du concept d'articulation, choisis au gré de lectures d'encyclopédies en sciences sociales, de keywords, de readers et d'autres. Ensuite, je m'attarderai à un texte qui remonte à 1984, écrit par un professeur devenu depuis le temps émérite à l'Université Queen's, Bruce G. Berman, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et enfin, je passerai à Stuart Hall. J'avais comme idée de remonter jusqu'à 1995, ce que je ne ferai pas. Je vais donc essentiellement vous parler de la période 77 à 82. Et pourtant, il y a tellement de choses à dire juste sur cette période-là. Bon. Parmi les livres français auxquels j'ai fait référence, ces anthologies-là, etc., celui-ci, vous le connaissez peut-être déjà. Il s'agit du premier véritable ouvrage de traduction de l'essentiel du dit canon en British Cultural Studies et Australian Cultural Studies. Celui-ci que vous connaissez peut-être, Identité et culture, c'est-à-dire il existait deux traductions de textes de Stuart Hall à venir à ceci, ou peut-être trois traductions, encoding, decoding, quelque chose dans Hermès, et je crois que c'est à peu près tout, alors que Stuart Hall a écrit pendant 45 ans. Il s'agit donc de la première traduction de quelques-uns de ces textes dits importants. Traductions qui ont du sens, d'ailleurs. Des textes assez bien faits. Alors, la première définition que je vous présente, elle est tirée de ce livre-ci, un Keywords. La voici. Habituellement, ce que je fais en classe, c'est que je demande à quelqu'un de lire pour moi. Y a-t-il quelqu'un qui a un excellent accent anglais?
Ou surtout, c'est capable d'avoir une position anglais.
OK.
Articulation doesn't carry...
OK, je vais le faire.
Ah oui, parce que c'est trop loin.
Dans les cultural studies, le concept d'articulation ne transporte pas ou ne porte pas son expression, son sens habituel de s'exprimer clairement. It is used in the sense that you may recognize from articulated trucks, c'est-à-dire, il s'agit d'une analogie faite par Stuart Hall. Pour expliquer le concept d'articulation, c'est que vous prenez un camion avec la cabine, le moteur et la remorque, et que l'articulation, c'est ce point-là entre les deux éléments. Là, vous devez comprendre qu'il y a un arbitraire ici, c'est-à-dire que la cabine peut s'associer à n'importe quelle autre remorque, mais que la remorque, lorsqu'elle est associée à la cabine, à moins de faire une véritable révolution technologique, ne peut pas être dissociée de la cabine. Donc, il y a une question d'arbitraire et il y a la question de non-garantie de l'articulation des deux éléments. Alors, vous prenez la cabine, elle dirige, la remorque suit, donc c'est ce que Stuart Hall nommait une... Dominance in structure en dominance. Vous avez cette explication-là ici. Alors, c'est ce que je viens de vous expliquer. Dans une configuration particulière où il y a une formation à un moment particulier, called a conjuncture, to produce a structural determinance of any given practice, text or event. Alors, vous avez ici une explication qui porte sur à la fois le social et qui, à un moment donné, s'intéresse également au sens à l'intérieur du texte. Parce que certains vont prendre le concept d'articulation et l'utiliser comme outil d'analyse de la structure argumentative du texte, en démontrant qu'il y a certains concepts qui sont articulés à d'autres, sous, encore une fois, ce même arbitraire-là, etc. The term has been extended and used to include articulations of other social forces. You might read, for instance, of the articulation of race and class in an analysis of subcultural music, or of the articulation of gender and nation in an analysis of sport. Ce qui est assez intéressant, c'est que ceci me remonte à 2002, et depuis quelques années, ceci est de plus en plus le lieu où le concept d'articulation est utilisé. Alors, il y a déjà une petite différence à l'intérieur de si peu de temps. La deuxième définition que je vais vous présenter, celle-ci vous devriez pouvoir lire, Kim, c'est tiré de l'International Encyclopedia. Donc, j'ai fait attention pour aller justement, c'est arbitrant encore pas peut-être, mais j'ai fait attention pour aller chercher des définitions qui sont dites à l'intérieur d'ouvrages de référence dits objectifs. Donc, juste pour voir comment pourrait circuler le concept à l'intérieur de ces ouvrages de référence qu'on retrouve partout. Alors, là, est-ce que tu peux lire?
Utilizing the concept of articulation, Laclau and Mouffe argue that there is not necessary intrinsic tie between ideologies and classes as assumed in such terms as bourgeois ideology or working class ideology. Rather, certain ideologies come to serve certain groups or classes' interests and represent the worldview of members of the class as a result of their effort to articulate ideologies according to their own interests.
Alors ici, ce qu'on a, si tu permets, c'est l'héritage d'Althusser. Si vous retournez à la période, c'est l'héritage d'Althusser qui nous dit « La base ne détermine pas directement, de façon totale, la superstructure. Il y a d'autres choses que l'économie. » Il va les nommer, on m'a fait lire ça au bac, les appareils idéologiques d'État. Donc, les appareils idéologiques d'État sont des éléments moteurs de la superstructure. Ils sont des lieux qui vont favoriser la reproduction du capitalisme, encore une fois. Mais suite à ça, Laclau et Mouffe, de façon séparée à ce moment-là, parce qu'en 85, ils vont écrire ensemble, mais de façon séparée, commencent dans certains ouvrages à dire, bien là, il faudrait peut-être réfléchir à ce fameux concept de classe qui est associé directement ou articulé dans la pensée marxiste, directement à une idéologie précise, puis que là, peut-être qu'on pourrait voir que ceci n'est pas si garanti, que ceci n'est pas si direct ou automatique, etc. Alors, tu peux continuer, cher. Oui, deux secondes.
Therefore, Laclau and Mouffe believe that subordinate groups such as women, people of color, ethnic minorities, and others can also enlist the ideology of liberty and equality to carry out a new radical democratic project in contemporary capitalism.
Et là, vous voyez l'utilisation du type d'articulation qui est si important dans les... Merci beaucoup. Qui est si important dans les études postcoloniales, qui est si important dans les gender studies. Pour tourner à les premiers textes de Judith Butler, pour tourner à Teresa De Laurentiis, Donner, oui, dont tu as parlé tantôt, et vous retrouvez l'utilisation. Mais ça, c'est toute la période des années 80. Alors, continuons encore deux secondes dans les années 80. Vous avez celle avec vous, celle de Jennifer Darrell Slack, donc sur la feuille des différentes définitions. Circulating definitions and concomitant practices of communication are real in their effects, hence real and worthy of analysis. Thinking with articulation is a way to comprehend the power of a concept, the work it performs, its reality without being seduced into accepting it as an absolute truth or unchanging essence. Ce qui est intéressant ici, quoique j'ai de la difficulté, comme tantôt Lynn disait par rapport à Grossberg, et moi je lui disais il y a trois heures par rapport à ceci, c'est un vocabulaire différent. Il y a peu d'analogies, comme on le voit dans les autres définitions. Slack est en train d'amener le concept dans une autre zone que je ne suis pas très, très à l'aise pour en parler, mais je l'ai ici inscrite juste pour que vous compreniez que le concept est toujours en mutation. En tout cas, génétiquement, il emprunte différentes pistes. La quatrième, celle de Calhoun, qui est peut-être une des plus conventionnelles parce qu'il s'agit d'un dictionnaire en social sciences, mais pour la sociologie. Mais en même temps, je vous ferai remarquer que ce ne sont pas toutes les encyclopédies en sciences sociales qui présentent le concept. Et le concept apparaît pas partout. Il apparaît dans certains ouvrages où vous retrouvez un comité éditorial qui, bon, les dimensions politiques. Articulation refers to the process through which practices, texts, and discourses are assigned or produce particular meanings. The principle that meaning does not merely inhere in action, in text or action, in other words, it is not intentional, but results from the place of a text or act within a specific historical context in which meaning is always contested by different groups. Alors là, ici, vous avez la question de la contestation du sens qui participe politiquement, sémiologiquement parlant, socialement, à la contestation de l'articulation ou, au contraire, à la mise en place de l'articulation. Et regardez bien à la toute fin. Ça va être important parce que tantôt, ce que je vais vous développer avec vous, là, a different usage was developed by Louis, et comme disent les Anglais, Althusser. Here, articulation linked different modes of production in historically specific social formations. point à la ligne, une seule phrase. Alors que, lorsque vous regardez dans les différents textes, Stuart Hall en premier, mais les autres, c'est à Althusser que l'on doit le concept pour cette articulation-là entre les modes de production. Alors, 25 ans plus tard, semble s'étioler cette signification-là pour en voir d'autres apparaître, mais la raison pour laquelle je l'ai mise, c'est que dans les textes dont je vais parler de 77 et 82, c'est le sens premier à ce moment-là. Clifford, remarquez bien avec Clifford, l'anthropologue qui étudie les textes, articulation, c'est claims to identity, articulation of ethnic, cultural, gender and sexual distinction have emerged as things people across the globe and social spectrum. Et là, c'est care et non pas car about. Alors, ici, à ce moment-là, on retrouve le concept qui était présenté dans la seconde définition. Et Canclini, regardez comment articulation devient tout simplement un terme là, sans connotation. It is necessary to articulate it. Et là, à ce moment, il s'est articulé, c'est tout simplement relier entre eux, mettre en situation d'analyse, mais ce n'est pas le concept d'articulation tel que défini. Alors, vous, et c'est pas pour rien que quel est l'auteur qui disait, ah, celui dont on va parler dans deux minutes, comment le terme, déjà à l'époque, dans les années 80, était considéré comme étant un des plus complexes de son époque et un des plus difficiles à analyser. Alors, je vais maintenant vous parler de la théorie de la dépendance, le colonialisme et l'articulation. Aidan Foster Carter, là, je crois que la CETAP a été mal faite à l'université. Oui, il vous manque le titre, mais vous avez au moins le nom de l'auteur. Aidan Foster Carter, dont quelques articles apparaissent dans les références de Stuart Hall à la fin des années 70, propose en 1977 ce texte-ci, dans un article intitulé « Marxism versus Dependency Theory, a Polemic », une critique du conflit opposant les tenants des deux approches identifiées, les celles-ci, à travers lequel le structuralisme althusserien, parmi d'autres, est débattu. Toutefois, le concept d'articulation y est peu discuté. C'est plutôt dans un texte du Canadien-anglais Bruce G. Berman, publié dans cet espace intellectuel des relations internationales et du développement, que j'ai trouvé une réflexion fort intéressante. Les références à l'univers de Foster Carter ici sont également des références qu'on retrouve dans le texte dont je vais vous parler et qui sont des références qu'on va retrouver dans le dernier texte dont je vais vous parler, celui de Stuart Hall. Donc, une sorte de famille, je ne me souviens plus quel est le terme qu'on utilise là, en bibliothéconomie, là, lorsqu'il y a justement ces réseaux de co-référentialité, là, etc., où on crée des espèces d'univers ponctuels là, d'échange de savoir. Voici. Alors, Bruce G. Berman, The Concept of Articulation and the Political Economy of Colonialism, publié dans le Canadian Journal of African Studies. Si vous ne l'avez jamais lu, moi je ne le connaissais pas. Assez intéressant d'ailleurs, mais ça remonte à 1984. Et il s'agit, je crois, pour cette période-là, du texte qui met le plus en valeur, qui examine le mieux, ou le plus tout au moins, le concept d'articulation. Alors, le premier sens qui est donné d'ici d'articulation, je vais vous le présenter. Articulation is the most distinctive and important concept to emerge from the Marxist critique of dependency theory and in the so-called modes of production controversy. Il y avait donc une controverse parmi les sociologues, mais surtout les experts du développement et du sous-développement en Afrique et des économistes. Ce conflit-là portait sur qui était réellement marxiste et qui ne l'était pas, d'autant plus que vous avez toute l'influence althusserienne qui est là, mais également que ceux qui disaient qu'ils faisaient de la dependency theory étaient considérés par les marxistes comme étant non-marxistes. Imaginez, là, c'est vraiment la langue de bois, c'est les petites chapelles, c'est le débat entre les deux. Foster Carter tantôt disait que tout le débat et le conflit étaient d'un ridicule. Berman reprend peut-être la même chose, mais en disant maintenant, là, laissons tomber le débat, puis interrompons-nous à comment on mobilise le concept d'articulation et pour quelle fin on l'a fait. Berman débute en avertissant que le concept d'articulation est difficile et controversé. Issu du concept structuraliste de social formation, formation sociale, à savoir une liaison hiérarchique de plusieurs modes de production sous la domination du mode capitaliste, le concept est associé aux travaux des chercheurs français Claude Meillassou, Pierre-Philippe Rey, mais également à ceux des Britanniques Adam Foster Carter, dont je vous parlais, et de Henry Bernstein, donc, qui est encore professeur à l'Université de Londres. Ses travaux des années 70 portaient sur les modalités d'adaptation du capitalisme en terres étrangères non développées, à savoir l'interrogation portant sur l'articulation et la reproduction des modes locaux et nationaux de production avec ceux étrangers et colonisateurs. Bref, comment les modes de production typiquement dits africains, locaux et nationaux pouvaient survivre et être articulés à ceux provenant du système capitaliste et comment pouvait-on expliquer les crises, les révoltes, mais également les succès ou les insuccès. Par exemple, le cas de l'Afrique, comment les modes paysans de production se reproduisent-ils plutôt que survivent-ils et comment sont-ils articulés au mode du colonisateur dans le cadre du capitalisme. Alors, tantôt, la petite définition qu'on avait de Louis Althusser, c'était sur les modes de production. Nous sommes vraiment là. Articulation, ce n'est pas entre gender et ethnique, etc. C'est entre modes de production à l'intérieur du système capitaliste. Poursuivant son travail visant à démêler les commentaires formulés sur le concept d'articulation dans le domaine de l'économie politique du colonialisme, Berman donne la parole au géographe Jonathan Crush, qui travaille toujours lui aussi, alors stationné à Lesotho en Afrique australe. Selon Crush, le concept d'articulation aurait montré bien peu de choses, son problème étant situé dans ses origines structuralistes fort abstraites, tout comme son concept de mode de production et son caractère téléologique et ahistorique qui isole l'économie du social. Alors, ce que reproche ici Crush, peut-être qu'il s'attaque au concept d'articulation, mais ce qu'il nous montre, c'est surtout qu'on utilisait le concept d'articulation en mettant de côté toute la dimension du social et du culturel, bref, comme si on faisait du marxisme de la période d'avant Althusser. Bref, que l'on mettait la culture, l'histoire, etc., de côté. Berman résume ainsi la position de Crush. « The most immediate difficulty is with the notion that what are being articulated are modes of production. » Pour Berman, Crush a soulevé une difficulté majeure. Les 10 modes de production locaux seraient avant tout des forces et des relations sociales qui se sont cristallisées historiquement pour devenir des formes sociales de production. Considérer ces formes sociales locales de production comme des exemples du concept de modes of production conduit à la confusion. This has meant, for example, that in some instances, each different labor process has been identified as a separate mode of production in a multiplication ad infinitum in which a single Latin America lentifada is said to contain several modes of production. Alors, le problème était qu'on en était rendu à prendre le concept. Imaginez-vous, vous prenez le concept d'idéologie, puis là, vous dites à l'intérieur du concept d'idéologie, il y a 25 étages d'autres concepts d'idéologie. So what? À quoi sert le concept d'idéologie à ce moment-là? Donc, ce qu'on constatait ici, c'est que si tout est mode de production, lequel est articulé à lequel, où se déroule le pouvoir? Cette difficulté pourrait, selon Berman, être mise... Voilà. Cette difficulté, selon Berman, pourrait être mise de côté si on considérait l'articulation comme la mise en relation de deux sociétés, aucune n'étant constituée d'un mode de production pur, mais chacune étant néanmoins dominée par une différente dynamique de développement. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on est en train de voir le concept prendre une tournure qui l'approche pas mal plus, en tout cas déjà plus, à ce que nous connaissons, c'est-à-dire qu'on quitte l'espace unique du mode de production, donc l'analyse économique, pour passer à une analyse sociologique. In this version, according to Henry Bernstein, a dominant capitalism subjects the element of other modes of production to the needs and logics of its own functioning and integrates them more or less in the mechanism of its reproduction. There is no question that the autonomy of the pre-capitalist modes of relation of production are preserved, nor any doubt that the law of motion governing the articulation is determined by capital. Donc Bernstein, 1977, c'est avant Berman. Berman fait donc le petit rappel à 77. Donc Bernstein nous dit, il faudrait insuffler un peu de subtilité, de souplesse, mais en même temps, il demeure à l'intérieur de l'univers de l'économique. Ensuite, Articulation thus resulted in the subjugation, exploitation of peasant labor on the basis of the partial restructuring and partial preservation of pre-capitalist forms with a minimal of capital investment. While pre-capitalist, ce que vous devez retenir peut-être, c'est la dernière phrase, domestic production is no longer an autonomous mode of production, but a form of the reproduction of labor power within capitalism. Donc, encore une fois, on travaille à l'intérieur de cet espace-là qui est strictement économique. Berman souligne que si le concept d'articulation s'avère ici fort utile afin d'expliquer les façons par lesquelles le capitalisme se nourrit des modes de production qui lui sont extérieurs, à ses yeux, le concept, tel qu'utilisé par Bernstein, demeure limité. Its structuralist origins are manifest in a rigid and teleological structural determinism. Articulation is seen as static and self-reproducing relationship that, once established, continuously and unproblematically serves the needs of metropolitan capital. Faisant référence de nouveau à Bernstein, Berman souligne toutefois que selon cette vision de l'articulation, les sociétés africaines demeurent passive receptors of external forces act upon but having no effective effects on the process. Là, on s'en va, lentement, mais sûrement, parce que j'y arrive, vers cette étape-là où aurait passé. Tantôt, je vous ai donné des signes de cette évolution-là, du concept. Lorsque Bernstein, c'est la période de réflexion, de tenter de sortir du paradigme économique pour passer au paradigme social. Alors, et là, vous avez compris que, essentiellement, le concept d'articulation, lorsqu'il est utilisé dans l'économie du sous-développement, positionne encore une fois les pays sous-développés comme étant, si on prend le modèle en communication, des récepteurs passifs versus des émetteurs dominants. Il ajoute, et là j'espère que vous l'avez, oui, il ajoute, « The structuralist concept of articulation then shares the conceptual failings of the structuralist theory of the states, in its inability to deal with the relationship between structural determination and a human agency, and with the effects of contradiction and conflict in historical processes. » Donc, c'est évidemment le procès qu'on a fait au concept d'articulation, le procès qu'on a fait au structuralisme, le procès que l'on a fait également à Althusser, à savoir où est rendue l'agentivité, l'agency. Qu'en est-il? Où se manifeste-t-elle? Par quoi peut-elle se manifester? Et c'est là que, justement, nous allons avoir la proposition de Berman, où le concept d'articulation va devenir porteur de cette agentivité-là. Berman pose alors la question suivante. Comment concevoir autrement l'articulation afin d'expliquer la complexité des réalités économiques, historiques, politiques, incluant celle des résistances, de l'Afrique face au capital? Premièrement, articulation should be seen as a process of struggle and uncertainty. Ça, c'est nouveau. The particular historical field in which European capital and the colonial state attempt to control the labor power and production of African societies. Donc, le concept d'articulation, à partir de cette formulation de Berman-là, encore une fois en 84, semble se voir doté de capacités de non-garantie, d'arbitraire, mais également de contestation. A. Everything that happened does not happen merely to serve the needs of the capital, either as an expression of structural necessity or the conscious agency of human interest. Le concept et l'articulation elle-même dans la réalité dépassent le paradigme uniquement de la domination. Au contraire, B, ce qui se produit est un développement inégal où la logique capitaliste est confrontée à des réalités historiques qui la dépassent, ce que le modèle typique marxiste n'entrevoyait pas comme explication. Mais à un moment donné, il fallait bien expliquer les révoltes, l'insuccès économique, la dépendance accrue, etc. C. The diverse patterns of transformation and preservation equally represent unforeseen and unintended outcomes, reflecting both African resistance to capitalist penetration and the inability of European capital and political forces to overcome such resistance in specific context. Alors, ce que nous avons ici, c'est une remise en question de la structure and dominance du marxisme typique utilisé en économie et en sociologie à l'époque et à la limite. Et il n'y a aucune référence faite à autre chose que l'économie et la sociologie du développement. Mais on retrouve ici des éléments qui ont été utilisés à la même époque dans les textes du groupe de Birmingham en 1960 dans le conflit avec la gang de Leicester, c'est-à-dire Murdoch. Il y avait Murdoch, Nicholas Garnham, ceux de la branche de Leicester. D'accord? Vous voyez, c'est curieusement ici des argumentaires similaires. Et les raisons du débat sont, les causes du débat sont également similaires. D, vous ne l'avez pas ici, D. Alors, Berman cite alors l'historien Frederick Cooper en guise d'exemple. We must recognize how difficult it was to get Africans off the land, how hard Africans fought. Il manque un mot là-dedans, il manque une lettre. En tout cas, fought, il me semble. Fought, to maintain their agricultural cycle and to manipulate new markets as much as to avoid total commitment to them and hence our little alternative capital adds to some form of migratory labor. À savoir, ce qu'on a mis de côté dans l'analyse, c'est essentiellement l'histoire, la tradition, les rituels, les coutumes, la société, la culture, tout ce que l'anthropologie a démontré ou a tenté de démontrer. J'approche de la fin. Désolé, c'est peut-être un peu lourd avec toutes ces citations-là. Stuart Hall et l'UNESCO. Ceci est un livre de 1996, mais alors ça ne correspond pas à la période dont je vais vous parler. Je suis toujours dans la période 1977-1980. La collaboration de Stuart Hall aux travaux de l'UNESCO. D'ailleurs, combien savait que Stuart Hall avait travaillé, collaboré beaucoup avec l'UNESCO dans les années 70? OK. Bon, bien, ça me rassure. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir fait une découverte. La collaboration de Stuart Hall aux travaux de l'UNESCO du début des années 70, a commencé ici à Montréal, à l'Université McGill, jusqu'au début des années 80, est peu connue. Par exemple, le livre que lui consacre John Potter en 94, je ne l'ai pas ici, en 2004, n'y fait aucune référence. Et pourtant, c'est un livre biographique et théorique critique. Pourtant, l'énergie qu'y consacre Stuart Hall ne fait pas de doute. Pour la période qui nous intéresse, Hall rédige, à ma connaissance, 4 textes substantiels pour l'UNESCO, dont Pluralism, Race and Class in Caribbean Society, 1978, et Race Articulation and Society Structure in Dominance, en 1980. Bien entendu, les idées qu'il développe dans ces textes sont ensuite injectées dans ses ouvrages plus connus dès la fin des années 70. À mon humble connaissance, l'utilisation par Hall du concept d'articulation commence dans ce texte fait pour l'UNESCO. Je vais vous le trouver, je l'ai ici, en 1980. Toutefois, puisqu'il manipule Althusser et Gramsci, tout spécialement le concept d'hégémonie, Hall développe depuis quelques années une réflexion qui laisse comprendre combien facilement il saura utiliser le concept d'articulation. Excusez-moi, je viens de sauter une ligne. Par exemple, dans ce texte bien connu de 1977, La culture, les médias et les faits idéologiques. Stuart Hall se concentre sur le travail de l'hégémonie, laquelle hégémonie ne peut être maintenue par une classe dominante unique et unifiée, mais seulement par une alliance conjoncturelle particulière de fractions de classes. Le contenu de l'idéologie dominante reflète ainsi la formation intérieure complexe des classes dominantes. Vous avez ici sous-entendu le concept d'articulation sans qu'il soit proprement nommé. Par la suite, il utilise l'expression d'idéologie dominante au pluriel, parle même de répertoire des idéologies dominantes, soulignant que le travail de l'hégémonie est d'obtenir le consentement en construisant le consensus à travers et par-delà les conflits. Encore une fois, flotte le concept d'articulation. Il nous faut donc dire, citation de Stuart Hall, que le travail de reproduction idéologique qu'accomplissent les médias est, par définition, un travail où des tendances opposées, les équilibres instables de Gramsci, ne cessent de se manifester. Alors, je vais prendre 2 minutes pour m'attarder au texte de 1980. Race Articulation, Society, Structure and Dominance, publié dans le document de l'UNESCO. C'est un rapport que vous pouvez obtenir sur le site de l'UNESCO. Et le rapport s'intitule Sociological Theories, Race and Colonialism, publié en 1980. Tout d'abord, la présence du terme, outre celle dans le titre, s'avère fugitive. Puisque j'ai obtenu ce texte tout récemment, en fait, je l'avais obtenu en juillet, mais je l'ai égaré, puis là, je l'ai retrouvé par le site de l'UNESCO, il me faudra prendre le temps de bien le parcourir. Cela dit, le concept apparaît vers la fin du texte, après avoir introduit et félicité l'ouvrage d'Ernesto Laclau de 1977, « Politics and Ideology in Marxist Ideology ». Et c'est un livre qui est également le livre qui était à apparaître de Chantal Mouffe sur Gramsci. Dans un passage sur les relations entre l'économie et le racisme, Stuart Hall formule une série de questions. Et là, on est à la fin du texte de 30 pages. What are the different forms? What are the different forms and relations in which these racial fractions were combined under capital? Do they stand significantly during different relations to capital? Significantly from the different relations to capital. Do they stand within an articulation of modes of production? Et c'est ça que je trouve assez amusant, parce que je vous ai fait les références tantôt. Lorsqu'il emploie textuellement le mot, c'est en rapport au mode de production tel que c'est employé chez Althusser. Et il n'y a pas ici possibilité d'articuler, dans cette première partie-là, autre chose que des modes de production. What are the relations of dissolutions, conservations between them? How has race functioned to preserve and develop these articulations? What are the functions which dominate modes of production, performing the reproduction, etc.? Il est pertinent ici de mentionner que parmi les références du texte de Stuart Hall, nous retrouvons évidemment Althusser, Banayi, qui est dans les deux autres textes dont je vous parlais, Foster Carter, Hirst, mais il y a Sue Ray, c'est la même famille dont je vous parlais tantôt, lesquels constituent également des références des textes en économie politique du colonialisme. En 1985, Lawrence Grasberg et Jennifer Darrell Slack rédigent un court texte d'introduction visant à introduire la pensée de Stuart Hall aux chercheurs critiques en communication, en préambule à la publication de son texte « Signification, Representation, Ideology, Althusser » j'aime bien ça dire ça en anglais « Althusser in the Post-Structuralist Debates ». Bien que court, le texte d'introduction est dense. S'y retrouvent les relations d'Hall aux idées d'Althusser, Foucault, Lacan, Marx, Derrida, Poulenzas. Grossberg et Darrell Slack se concentrent sur les notions de « necessary correspondence », donc de correspondance nécessaire, de l'articulation de « difference and unity » et du niveau de l'idéologie et de sa relative autonomie. Mais le concept d'articulation dans ce texte-là en 85 est absent. Enfin, en 86, Hall accorde une entrevue à la Grossberg pour la revue Journal of Communication Inquiry. Et c'est une entrevue qui porte sur On Postmodernism and Articulation. C'est au cours de cet entretien que Hall reprend la critique formulée par Althusser à l'endroit du déterminisme base superstructure chez Marx, afin de présenter le concept d'articulation qui réfère à la combinaison, et là je prends le temps de bien la dire, la combinaison non obligée, mais ni gratuite, d'éléments qui, réunis selon des rapports de domination et de subordination, forment une structure ou unité complexe. Le « without the guarantees » tantôt de Lynn, de sans garantie. Ces articulations qui combinent ensemble différents modes de production et ou des forces sociales sont indissociables des conjonctures historiques à l'intérieur desquelles elles se produisent. Plus simplement, le concept d'articulation peut aussi référer aux différents pivots qui assemblent et produisent un construit social et culturel, un discours, une idéologie, selon les forces hégémoniques d'une époque ou d'un espace. Toutefois, comme dans l'analogie au camion-remorque, l'articulation est soumise à l'action motrice de la cabine sur la remorque. C'est ce que Hall entend par « structure and dominance ». Je vous remercie pour votre écoute.
La dernière citation que tu fais, tu ne l'as pas... elle n'est pas...
Non, mais en fait, c'est moi qui la résume. À moins que... Oui, c'est moi qui la résume.
que j'ai commencé à prendre des notes.
C'est celle, de la fin, la, c'est celle qui est probablement la plus connue, la plus celle qui est répétée par un
calculable
de
fois sur la vente. Je te l'enverrai.
Alors, la parole est à la salle.
Je vous répète que c'est un exercice. Hein. Alors, ceci, ce que j'aimerais pouvoir faire, si j'ai d'autres moments où je vais être stimulé par l'idée, c'est que de reprendre d'autres pistes, de faire d'autres généalogies, c'est-à-dire de prendre trois autres auteurs qui se font référence et voir comment ce concept-là, dans à peu près la même époque, est présenté, comment il est critiqué, comment il est utilisé, et ensuite le faire pour d'autres. Pour voir comment, justement, ce concept-là qui est devenu majeur, mais dont on a oublié les... Parce que je trouve ça, écoutez, très, très, très amusant, pas paradoxal, mais amusant que ça vienne de l'économie politique du sous-développement, ce concept-là. Oui, Damien.
Justement, les lignes de fracture que tu as repérées dans la généalogie du concept d'articulation, est-ce que ça permet... Aujourd'hui, comment le concept est utilisé? Est-ce que ça permet de est-ce que tu les retrouves aujourd'hui, ces lignes de fracture dans la généalogie du fait pour les années 80? Est-ce que ça se retrouve aujourd'hui, les gens qui parleraient d'articulation en référence des modes de production?
Moi, c'est parce qu'on se spécialise avec le temps, puis on lit en communication, on lit en cultural studies. Surtout, moi, je lis surtout par rapport aux médias. Donc, non, moi, peut-être Grossberg, je ne sais pas. Mais je me souviens que lorsque je lisais Grossberg et lorsqu'il travaillait sur le rock and roll, les modes de production, il faisait peut-être référence. J'aimerais ça y retourner, 1982, 83, 84, quand il me parlait de l'industrie. Mais encore là, il voulait tellement aller vers les notions de plaisir que c'était contrebalancé. Mais actuellement, puis là, je pense que Hélène pourrait peut-être faire mieux me le dire par rapport à Grossberg et la musique, mais actuellement, moi, je le vois pas, là, le rappel du... La période post-adulcère, je le vois pas. En tout cas, je le fréquente pas et je le rencontre pas dans mes lectures.
Pourquoi est-ce que tu as une hypothèse? Pourquoi le concept a un peu été scrappé des traductions françaises en cultural studies?
Non. Et curieusement, hégémonie et comment ça s'appelle, socialiste là de la Chloé Mouffe.
Oui.
Radicale
démocratie. Oui. Bon, vous savez qu'il a été traduit l'an dernier, qu'il est sorti l'an dernier. Bon, il est sorti avec là, plusieurs ont dit, écoutez, là, ça fait 20 ans, 25 ans là, et il y a même pas une préface des auteurs en disant pourquoi en 2010 c'est pertinent, mais ce livre là, quand il sort en 85, a une répercussion, c'est-à-dire que sa présence, je dirais pas irradie, mais il est fréquemment commenté, et Grossberg va l'utiliser. Pour eux, c'est quelque chose qui est, je dirais pas qui est nouveau à l'époque, parce que déjà en 77, ils considèrent que le premier livre de Laclos est important, mais ceci a joué. La raison pour laquelle on n'y fait pas référence, puis que les textes de Hall où il développe, en fait, les textes de Hall qui sont traduits ne sont pas les plus théoriques. C'est vraiment pas les plus théoriques.
C'est politique.
Oui.
Au sens, un mot politique.
Ou sinon, récupéré par les gens, ceux qui sont derrière ça, pensent à Éric Maigret, Éric Massé, sont des gens qui enseignent en communication et qui ont également un mobile, c'est peut-être plus que moi, Éric, probablement, qui doivent mettre de l'avant la pertinence de ce domaine-là. Vous avez la Bourdieu qui occupe un espace important encore en communication par rapport à la sociologie. Alors, les cultural studies, avec les différents textes qu'ils ont traduits, bien, vous avez comme... Tu as un nouveau recueil qui arrive et que tu peux présenter comme étant une nouvelle façon de comprendre les médias. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, le concept d'articulation... Mais je pense qu'il est beaucoup plus... Je ne lis pas beaucoup en gender studies français. D'accord, les traductions, puis qu'est-ce qui se fait, comme dans il y a de super revues, la revue Cahiers du genre, par exemple. Et je suis certain que dans la revue les Cahiers du genre, tu vas peut-être possiblement retrouver le concept d'articulation. Oui?
Oui, je voulais peut-être juste revenir sur le mot généalogie, dans le fond, parce que ça a l'air important de distinguer quoi, généalogie d'histoire. Je me demandais, peut-être tu peux expliquer en quoi c'est plus généalogique historique, parce que peut-être, je clarifie, mais ma conception généalogique, c'est plus conscient de possibilité de certains discours, donc vraiment plus largement, quelles sont les forces qui ont permis à un certain moment de poser la
oui, oui.
Comme ça. Donc, peut-être, le premier chef, je verrais ta démarche plus comme une contre-histoire un peu à la Ghislain, de dire, de présenter une histoire, une lignée, alors qu'il peut en avoir d'autres.
Parce que je reviens souvent à une discussion que j'avais eue avec Lynn il y a très longtemps sur toute la dimension, le sous-entendu téléologique qu'on retrouve dans l'histoire. Alors, disons que c'est un exercice qui viserait à un moment donné à reconstruire la conjoncture. Si je réussis à retrouver les différents lieux de passage, là, j'avais une métaphore ce matin qui était... au lieu de se préoccuper de la pluie qui tombe, examinons les rigoles qui se créent, n'est-ce pas magnifique? Et donc, de regarder les différentes rigoles prises par le concept d'articulation, et là, ensuite, d'en arriver à en faire une conjoncture. Pourquoi ces différentes rigoles-là, dans la même période, dans différentes disciplines, avec des auteurs qui se citent, qui ne se citent pas, qui font... Alors, c'est pour ça que je disais... Je pourrais tout de suite choisir la bibliographie que j'ai de Foster Machin, trois textes, trois livres qui sont écrits à l'époque, qui font référence, les prendre, ça m'amène ailleurs. Puis là, ensuite, les autres, ça m'amène ailleurs. Bon, ça peut paraître... Moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est ça qui m'a fait surpris, qui m'a surpris beaucoup dans les derniers jours. Mais bon, c'est la meilleure explication que je peux donner.
Puis-je?
Oui.
Deux affaires. La première, c'est... Moi, j'ai vu un lien, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Moi, j'ai vu un lien entre le moment qui me dit que Bergman, que je ne sais pas en tout c'est qui, et ce monsieur Bergman.
Professeur émérite à l'Université Queen's, qui continue à travailler,
monsieur,
qui enseigne toujours.
Ce monsieur, tu me dis, il est un de ceux qui contribue à déplacer le sens, en quelque sorte,
oui, oui, oui.
Et moi, j'y voyais un lien, et je pense que c'est à peu près à la même époque, avec la théorie du développement inégal. Tu sais, ça revient avec mes vieux bagages sociaux, là. C'est loin, loin, loin. Mais la théorie du développement inégal, c'était une des premières théories qui, des années plus tard, on va dire qu'elles ont contribué à développer les notions du postcolonialisme, dans la mesure où ce qu'on va dire, c'est il est peut-être, on aurait peut-être accepté que toutes les sociétés se développent au même rythme que dans une simplicité
oui, 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 oui.
Qu'à l'intérieur même d'une formation sociale, l'ensemble des composants, pensés dans un mode très structuraliste, l'ensemble des composants n'ont pas les mêmes temporalités. Donc l'économie ne se développe peut-être pas nécessairement au même rythme que le politique, que l'historique. Que
okay.
Pourquoi ça me faisait penser à ça? C'est que l'une des manières, parce que tu le lis en disant, c'est pas que tu y vois en disant, il y a les modes de production, mais ce n'est pas un mode de production pur, ça a ses propres dynamiques de développement. J'ai l'impression qu'une des failles, c'est dans le temporel. Tu sais, tu nous disais tantôt, ça se dissocie de l'économie. Moi, ce que je voyais aussi, c'est qu'il y a peut-être une réflexion en cours, je ne sais pas comment dire ça, mais qui questionne le rythme de le développement. Je ne sais pas comment dire ça autrement.
Oui, 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 oui.
Et si tu prends l'articulation à la Hall, parce qu'il y en a d'autres, mais si tu parles de l'articulation à la Hall, il y a une notion de temporalité. Dans la mesure où le truc qui revient souvent, c'est le camion, là, mais il y a avec l'idée que cette articulation-là, elle doit tenir dans le temps. Ils appellent ça, c'est les forces tendancielles.
Oui, oui, d'accord.
Donc, les forces tendancielles font que l'articulation n'est pas juste, et le camion n'est pas juste là pour 10 minutes, il coin de la rue. Donc, il y a quelque chose dans l'ordre, je ne sais pas, dans l'ordre de... du lien entre le temps, puis je sais pas, peut-être.
Je connais pas ça, le DTI.
C'est peut-être juste à vérifier. Juste parce que je me dis qu'il y a peut-être un input théorique qui est là, qui est peut-être en train de discuter, avec lequel il y a peut-être des enjeux de développement, mais peut-être aussi des enjeux qui sont pas que... je sais pas. Bref, je te lance ça dans
le okay.
D'accord. L'autre affaire qui me frappait, c'est... moi, je trouve que l'une des choses intéressantes que ça fait, c'est, et là, c'est mon fétiche de concept voyageur, de comment ça s'appelle?
Traveling, traveling culture, non, pas ça.
Non. Nick Eval,
oui, oui.
Nick Eval, que j'aime beaucoup, mais c'est un chercheur néerlandais, là, qui, regarde à travers les humanités, ça c'est son domaine, non, mais regarde à travers les humanités comment certains concepts, en étant réappropriés, redéployés différemment, non seulement veulent dire des choses différentes, ça c'est comme une porte, ça va de soi, mais que en les introduisant dans un domaine de recherche, dans une des problématiques, font quelque chose. Mm-hmm. Et là, quelque part, ce que je trouvais bien intéressant, okay. c'est que vu comme ça, c'est comme si le concept d'articulation a l'air d'avoir voyagé, c'est le cas
de dire. Oui.
Puis qu'il fait des affaires bien différentes. Et l'une des affaires qui, moi, me frappe dans cette façon de penser-là, où moi, je trouve ça très productif, c'est que ça nous empêche de chercher à avoir un lien direct entre chaque définition.
Oui, c'est ça.
Tu sais, c'est pas juste comment c'est défini, c'est une fois que tu l'as défini, tu n'as rien fait si tu ne l'as pas utilisé, si tu ne l'as pas travaillé, si tu ne l'as pas fait travailler. Et c'est intéressant de voir comment, dans le déplacement que tu as tracé, c'est, à la limite, c'est même plus le même concept.
Non, c'est ça.
Donc, quelque part, c'est dans le voyage qu'ils font des affaires tellement différentes que. Alors, là, les liens, c'est est-ce qu'on peut tracer à ce moment-là? Si c'est le cas, comment on trace? Pourquoi on retracerait chronologiquement? Ça appelle peut-être à dire ce que tu as mis en évidence, c'est peut-être des choses qui n'ont de chronologique que l'apparence.
Oui.
C'est-à-dire que la pertinence chronologique, elle est peut-être dans l'ordre heuristique que pour les faire apparaître. Puis une fois qu'ils sont apparus, moi, j'aurais tendance à dire, ah, c'est super, parce que comme un truc qui est totalement mode de production, un truc qui est totalement, qui n'est peut-être pas du tout les mêmes, et ça le rend encore plus intéressant, leur coprésence, à un moment donné, a l'air, pas d'un hasard, parce que les mêmes gens se citent, bon, ce genre de truc-là, ouais. Il n'y a peut-être pas cette idée de, tu sais, c'est parti de là pour aller là.
C'est ça, il n'y a pas la dimension téléologique. Là.
C'est ça.
Et on sait, juste faire l'exercice démontre qu'il ne l'a pas, là.
Ouais,
et là, on se dit, bien, on va se fier uniquement, on va se fier aux documents, etc. Écoutez, c'est une période où les congrès deviennent de plus en plus importants et où on voyage de plus en plus entre l'Europe et les États-Unis. C'est le début des années 80, et là, on n'échange pas des idées uniquement par les textes, mais également ailleurs. Donc, faire le travail de généalogie uniquement avec les textes pour cette période-là est déjà un peu difficile.
Je pense que l'UNESCO nous donne une bonne piste, parce que moi, j'enseigne des théories de développement, là, puis quand on regarde les critiques qui ont été portées, je n'ai pas vu les expressions en mode de production, mais on va critiquer l'ethnocentrisme, l'eurocentrisme, oui. On va parler de du fait qu'on a négligé tout l'aspect social, que c'est juste des indicateurs économiques, bien que les premières approches voulaient faire de la modernisation économique et politique, c'était aussi l'importation de la démocratie libérale. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas trouvé ce vocabulaire-là. Après, chez des auteurs qui ont travaillé, c'est sûr, des années après sur les paradigmes de développement, mais il est certain que ça renvoyait à des échanges qui avaient lieu aussi, je pense, à l'UNESCO, parce que dans la théorie de la dépendance, c'est les latino-américains beaucoup, après ça a été repris en Afrique, et eux, ils ont toujours été très actifs à la fois dans la recherche théorique puis de faire des liens avec la politique. Mais ça se passait dans des arènes internationales. Puis tu as raison, quand tu parles des colloques, mais je pense beaucoup que l'UNESCO, c'est une piste où, à un certain moment donné de l'histoire, il y a eu beaucoup de chercheurs de gauche qui ont travaillé ensemble. Puis c'est eux qui ont théorisé la dépendencia, puis
ces
courants-là.
Oui.
Il faudrait voir vraiment s'ils citent des auteurs d'autres disciplines. Mais je pense qu'il y avait des préoccupations qui étaient beaucoup associées à bon, le développement, ça a été inventé pour consolider l'hégémonie états-unienne. Ouais. Ça autrement que l'impérialisme, c'était la même chose. Donc, si c'est des relations internationales gommées à la sauce, on va apporter la vérité aux autres planètes, mais on va surtout gagner en guerre froide. Donc, il y avait, me semble-t-il, que ça se faisait beaucoup dans d'autres secteurs que les secteurs de com ou de culture.
L'éducation.
Oui.
Le lien avec l'UNESCO et là, si tu suis Hall et compagnie, une grosse portion, le lien de la présence de Hall à l'UNESCO est à travers son implication dans l'éducation supérieure en Angleterre et dans l'éducation des adultes.
Oui.
Et c'est beaucoup à travers ces réseaux-là.
Et la question de la race, les Caraïbes aussi, ils commencent à ce moment-là clairement à faire.
Et je pense que ce que tu dis, c'est que l'UNESCO, surtout à ce moment-là, tu me détromperas, mais il me semble que l'UNESCO, entre autres, à ce moment-là, c'est l'un des premiers, l'un des domaines forts où on va voir émerger les premiers trucs sur les politiques d'éducation, le rôle de l'éducation.
Oui. Puis parce qu'ils vont reprendre, entre autres, des choses qui ont été conçues bien avant, dans les années 40, entre autres,
par des militants, souvent religieux, qui faisaient de l'éducation. Après, ça va être théorisé par Flavio Brésil avec la pédagogie doctrinaire. Mais donc, c'est ça, je ne sais pas, ça serait intéressant de voir quel, ça a été quoi les échanges entre les chercheurs. Mais c'est sûr qu'il y avait, me semble-t-il, aussi un développement relativement autonome qui était posé soit en éducation ou sur des questions vraiment politiques ou de développement économique, toute la théorie de la déconnexion. Puis, parce que le paradigme de la dépendance en développement, c'est quelque chose qui est énorme et qui renvoie effectivement à toutes sortes d'approches qui se ressemblent sur certains points et qui s'affrontent sur d'autres. Il y en a qui vont dire, ah non, c'est possible de le faire avec la contribution des élites. Il y en a d'autres qui vont dire, non, mais dehors les élites, c'est vraiment une approche beaucoup plus à gauche. C'est vraiment...
Mais je pensais, parce que j'ai fouillé un petit peu sur les auteurs, il y en a trois là-dedans qui sont devenus professeurs émérites, dont Berman à Queens. Bernstein, lui, est à l'Université de Londres et c'est le département de développement social à l'intérieur de l'école d'études africaines.
Développement social.
Oui, et là, tu as... bon. Et il est prof émérite là. Et ensuite, un autre... Donc, deux Canadiens et deux Britanniques. C'est intéressant que tu me parles de l'hégémonie américaine, mais ce sont les gens du Commonwealth et de la France qui travaillent sur le sous-développement et la domination américaine en Afrique à ce moment-là, en tout cas dans les textes que j'ai.
J'ai envie de... Ah, est-ce qu'il y avait... Je cours sur une personne. J'ai envie de te poser une question... de voir un peu comment tu as travaillé, comment tu travailles, parce que je me disais, bon, il y a des auteurs qui se citent en effet les uns les autres, donc tu dois y aller par référence et tout, j'allais dire les notes de bas de page ont peut-être leur importance, mais par exemple, dans le cas où tu vas avoir un texte, où il n'y a vraiment, par exemple, aucun lien, ou comment tu découvres un texte, par exemple, d'un auteur, imaginons, qui travaillerait sur le concept d'articulation, mais qui ne ferait pas le lien avec d'autres auteurs que tu as lus. Ouais, parce qu'aller piste en piste, on voit assez bien là, comment on peut procéder. Mais alors, comment on peut éventuellement trouver, imaginons, voir plusieurs galaxies d'auteurs qui mobiliseraient un même concept, mais sans faire référence aux autres. Tu vois la question méthodologique là. Comment tu procèdes en fait?
Ben, ça a été surtout par. Je passe à travers les différents catalogues. Et ensuite, j'avais quelques textes de Hall des années 80. Et là, je pense que c'est Eden Foster Carter. C'est par hasard, en tombant sur lui, qui est un économiste, où le nom est sorti, non pas à cause du texte que je vous ai présenté, mais d'un autre, qui était très référencé à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai pris la piste. Puis à partir de Foster Carter, que je ne connaissais pas, j'ai remonté vers d'autres auteurs, puis en découvrant le domaine de ce domaine-là, que je n'imaginais pas qu'on pouvait travailler sur l'article-là. Et donc, j'ai juste fait un petit secteur à l'intérieur d'un domaine. Et tu vois, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de chance, beaucoup de hasard là-dedans.
Mais en
sciences
humaines, ça doit se faire.
Ah oui, eux autres, j'imagine.
Je travaille là-dessus, puis avec...
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je prétends pas du tout. Là, la méthode employée, c'est plus du hasard et... hasard et poursuite.
Mais en tout cas, en scientométrie, il y a des gens qui travaillent que là-dessus, sur les réseaux de citations.
Oui.
Puis, maintenant, avec tout ce qui va être en ligne, ça va être plus facile. Parce que juste, même pour voir soit des concepts ou des formations là, linguistiques un peu plus longues, ça se fait aussi. Ça sert d'indicateur de notoriété, en tout cas.
Et ouais. Ça va être très important pour coter les professeurs dans les universités pour les demandes de subventions.
Ça sert déjà.
C'est très critiqué, ça.
Oui, je sais.
Très critiquable.
C'est pas la
parce qu'on est dans la quantification.
Mais disons que ça va être utilisé, ce livre.
Non, mais c'est parce qu'en fait, alors, ce que je disais, c'est lié parce que l'une des questions qui se pose, c'est... parce que souvent, en fait, il va y avoir aussi des effets où les auteurs se citent les uns les autres. Mais si quelqu'un est en dehors, en fait, ou marginal, ben, alors tout d'un coup... quelle est la façon de le retrouver?
Il disparaît.
J'allais dire, c'est un peu le même principe que Google, hein, ouais. Où en fait, ce sont toujours les mêmes qui sont cités. Il y a un effet de notoriété.
C'est ça, c'est l'effet Saint-Mathieu. C'est que plus quelqu'un est cité, plus il va être cité. Avec Google, c'est comme ça que ça fonctionne.
Ouais.
Je me suis corrigée, j'en parle dans ma tête, mais ça fait quelques années déjà. Mais c'est vraiment l'idée de. C'est un peu aussi comme quand on dit que le capital ou capital, c'est le capital symbolique dans ce cas-là. Parce qu'avec Google, ça a été analysé que les gens vont regarder, je ne me souviens plus, c'est les quatre ou cinq premières pages.
Ouais.
C'est pour ça qu'il y a des critiques qui sont faites sur l'utilisation de Google, parce qu'effectivement, ça va toujours être répété, puis ça se fait aussi dans les notes en bas de page. Les gens vont toujours lire les mêmes auteurs, vont reciter les mêmes auteurs.
Ouais.
Mais l'une des façons dont fonctionne Megabal, pour ne pas le citer, c'est que compte tenu qu'elle piste des concepts, elle les piste justement en se disant, je ne cherche pas nécessairement, puisqu'elle postule qu'il n'y a pas de... de transition simple. Elle imagine au contraire une série de discontinuités. Donc, il faut que tu partes avec le principe que s'il y a des discontinuités, il n'y aura pas nécessairement ta même série, des référencements, etc. Donc, elle y va par des lieux qui sont susceptibles, des lieux où elle verrait des problématiques susceptibles d'être apparentées. Donc, elle le voit par ça. Et donc, des fois, et c'est un de ses arguments, des fois, le terme n'y est pas, mais le concept est très, très, très long.
Ouais.
Et c'est quoi ces lieux?
Ben, ça peut être, tu sais, ça a été des, par exemple dans des séries d'analyses.
OK.
Elle voit, mais elle ne regarde pas au sens de la vie intellectuelle. Là. Elle ne regarde pas un tel, ce que François qui était capable de dire, ben, lui, il travaille à telle université. Elle, ce qui peut être préoccupé, c'est le travail du concept. Le concept. Et non pas le concept tel qu'il aurait été par des gens. T'enlèves le monde. Là. Et puis non, il y a le concept qui travaille. Et donc, elle piste vraiment en fonction de, bon, je ne sais pas, moi, un des concepts qu'elle regarde, c'est performance. Bon, ben alors, une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle dit, bon, OK, performance, bien sûr, théâtre, mais performance, t'as plus que. Et là, elle change volontairement et elle piste comme ça. Mais puisqu'elle postule une discontinuité, c'est plutôt d'imaginer des lieux qui ne seraient pas en continuité. Okay.
Mais c'est ça, c'est pas un terrain institutionnel limité.
Non, c'est ça, exactement. Exactement. Et là, à ce moment-là, ça lui permet de voir des affaires qu'on ne verrait pas si on ne pistait qu'en auto-référencement constant.
Comme en France, il y a des gens qui vont travailler sur la socio de l'éducation.
Non, pas du tout.
Je ne veux pas monopoliser la parole, mais la question va peut-être tomber complètement à plat, mais c'est parce qu'il y a deux mois, je pense environ, il y a Oumar Khan qui a fait une intervention où il a parlé à la fois d'économie poétique et de cultural studies, et il a dit quelque chose. Malheureusement, il s'excuse, il aurait voulu être là cet après-midi, il ne pouvait pas. Je ne veux pas le trahir, mais bon.
Tu vas. J'ai mis son texte sur le scan, tu as me dire d'avoir plus rien.
Ah, il a. Alors, tu vas voir si ça a une résonance par rapport à tes travaux ou si ça tombe complètement à plat. Mais si ça tombe complètement à plat.
Pas.
Non, mais si ça tombe à plat. Tu en feras ce que tu voudras. Et si ça tombe à plat, c'est peut-être parce que je n'ai pas compris du tout ce que disait Oumar. Bon, donc le mieux, ça sera après de que vous en discutiez ensemble. À un moment, il me semble qu'Oumar a dit que il lui semblait que la notion de dialectique pour l'économie poétique pouvait être correspondant à la notion justement que tu as abordée par rapport au cultural studies.
La notion dialectique en... Ouais. Hein? Oh, okay. Quelle analyse tu serais perdu? Quelle analyse elle faisait la notion dialectique en économie politique?
Ce qui a remonté à Francfort. Mais...
Il a ramené à Francfort?
Pas son PowerPoint, alors le problème, c'est...
Oui.
Mais c'est quelque chose... Il n'a pas développé du tout, hein. C'est deux phrases dans son propos, et j'ai pensé à ton intervention à ce moment-là, et je me suis dit, mais Oumar va sans doute être là.
Ben écoute, moi je te ramènerai à ce que Lynn a dit à la toute fin. Là on revient au contraire à la dialectique qui culmine en un ensemble qui est l'ensemble idéaliste, qui est la conclusion d'un cheminement, alors que le concept d'articulation, c'est la composition d'un élément qui est là de façon inconstante, contestée, non permanente, dont la modification n'est pas garantie, etc. Alors, je dirais que c'est peut-être l'opposé.
attendra aux morts, il faudrait qu'il fasse des morts. Et on peut parler pour vous, morts.
Ben oui, c'est ça. D'où mes précautions.
Mais à ce moment-là, si on peut dire, mais à quel moment? Est-ce que c'est avec l'utilisation, bon, tu vas me dire, tu as dit les cultural studies, mais à ce moment-là, à quelle période? Est-ce que c'est celle des années 80? Est-ce qu'on monte avant ça? Est-ce qu'on prend du cerf? Bon.
Et c'est une chose certaine, en plus, il faudrait, de la même manière qu'il faudrait probablement, il y aurait probablement qualifié lui-même dans quelle économie politique, j'imagine, faudrait se poser dans quelle cultural studies, parce que là, il y a des écarts quand même assez significatifs. De la même manière, des économies politiques, je pourrais imaginer quand même dans certaines économies politiques, tu dis ça, puis les gens grimperaient aux barricades. Ça dépendrait. Bref, on en veut un mort.
Mais je vous remercie beaucoup.
Donc, il
n'y
a plus aucune...
Non, il n'y en a plus. Ils sont fatigués, je suis fatigué.
Remarque, hein, j'ai fait un dernier appel tout à l'heure.
C'est très gentil, oui, je sais.
Donc, on termine là-dessus? Sur la parole d'Oumar, qui n'est pas là, qui est une présence virtuelle.
Prendre le présent Oumar, qui n'y était pas.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Merci. Merci encore de nous avoir donné cette chance.